On va étudier les événements de ce chapitre. Pour la lecture, je propose de commencer à partir du verset 30, parce qu'il y a pas mal de répétitions, des choses qui se sont passées. Nous lirons Actes chapitre 10, à partir du verset 30, et on va déborder dans le chapitre 11. J'attire juste votre attention sur les premiers versets, Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc il s'agit de cet homme Corneille. Et puis nous lirons maintenant à partir du verset 30. Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée. » Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase, j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les croix du rupède de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arrivait jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Voilà, nous arrivons ici encore à une étape charnière dans le livre des Actes. En chapitre 9, on a vu la conversion de l'apôtre Paul, grande étape, grand événement clé. Et dans ce passage, nous assistons encore à une conversion importante, celle de Pierre. Merci. Effectivement, c'est la conversion de Corneille, mais ce passage, c'est le récit de deux conversions. Deux hommes vont vivre un bouleversement dans leur vie, un changement, une conversion, si je peux dire, Corneille et Pierre. Et j'oserais dire qu'il a fallu plus insister, plus d'intervention de la part de Dieu pour changer les mentalités de Pierre que celles de Corneille. Alors on va parler un peu de ces deux conversions ce matin. D'abord la conversion de Corneille, ensuite la conversion de Pierre, la conversion entre guillemets de Pierre. Et après, on verra aussi cette étape du baptême, des baptêmes. Donc d'abord les conversions, ensuite les baptêmes. Ça peut nous apprendre bien des choses sur le plan de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Voyons la conversion de Corneille tout d'abord. Il serait difficile d'exagérer l'importance de cette conversion dans le livre des Actes. C'est ici que l'évangile va faire un grand pas en avant. C'est un peu comme dans la science, la découverte de l'électricité a révolutionné la technologie, la science, ou comme la découverte du poudre à canon a révolutionné l'art de la guerre. Et bien ici, la conversion de Corneille va révolutionner l'évangélisation, parce qu'avec avec lui qui vient à Jésus-Christ, l'évangile va franchir une barrière infranchissable à l'époque. C'est ça le message passionnant du livre des Actes, c'est comment l'évangile va toujours de plus en plus loin. Il faut dire que l'auteur Luc de ce livre nous a préparé pour ce moment. Il nous a montré jusqu'à présent comment l'évangile a touché des personnes qui normalement ne seraient pas vraiment inclus, qui ne seraient pas des gens normaux dans la communauté juive. Donc déjà les Samaritains, on a vu comment ils ont été touchés par le ministère de Philippe et inclus eux aussi dans le salut, dans l'Église. Et puis cet eunuque éthiopien, lui qui était aussi touché par l'Évangile. Donc ça c'est déjà des pas en avant, mais ici, avec Corneille, on va dire que la porte va être foncée, poussée grande ouverte pour que l'Évangile aille aux extrémités de la terre. Cet homme Corneille, on apprend qu'il est un centenier romain de la cohorte dite italienne. Je pense que c'est pas mal de se rappeler dite italienne, et ça veut dire que ça venait d'Italie, et en Italie se trouve la ville de Rome. À l'époque, voilà, Rome, c'était l'Empire, c'était tous ces soldats romains sur le territoire juif, ils appréciaient ça beaucoup. Ça se trouve à Césarée. Césarée, c'est une ville en Israël, mais Césarée, César, c'était la capitale du gouvernement romain. Il y avait Jérusalem, capitale juive, et puis Césarée, c'était la capitale, le siège du pouvoir romain. Et donc, Césarée, Jérusalem, c'est un peu comme Vichy, Paris, avec toute la connotation que Césarée peut avoir pour les juifs. Donc, il faut comprendre la présence de tous ces soldats juifs, de tous ces soldats romains sur le territoire juif, ça leur était difficile, insupportable même. Le rêve de tous les juifs, c'était de chasser les romains, de se battre contre eux et de gagner, pas de les voir bénis par Dieu, touchés par Dieu. Mais c'est justement là que la grâce de Dieu va intervenir. Dieu va toucher cet homme Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. On a plusieurs remarques concernant la conversion de cet homme Corneille. On nous l'a présenté dans les premiers versets, un homme pieux, craignant Dieu, faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Première remarque, un peu la conversion selon la Bible. La conversion, je vais le dire comme ça, ce n'est pas plus de religion, c'en est moins. Aujourd'hui, vous dites à votre voisin, quelqu'un nouveau chrétien dira à son voisin, je me suis converti. Tout de suite, je suis sûr, le voisin pensera, oulala, encore quelqu'un qui s'embarque dans une religion, encore il va devenir tout religieux maintenant. Ça y est. Mais la conversion, comme on apprend ici, ce n'est pas plus de religion, c'en est moins, probablement moins. Regardez Cornelius, il est déjà pieux. C'est un homme craignant Dieu. Il fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes œuvres. Et il le fait de manière sincère, pas de manière hypocrite, comme on le voit. Donc il fait déjà beaucoup. Une démarche, on va dire, religieuse, sincère. Alors on se dit, déjà lui, ça doit être bon. Lui, ce que Dieu veut de nous, des hommes, si jamais homme réussit à peu près, ce serait cet homme Cornelius. Mais non, il va falloir lui qui se convertisse, il va falloir lui qui découvre le salut. On a lu ce verset 14, verset 11. Apparemment, il a compris qu'il fallait qu'il fasse venir Pierre et que Pierre allait lui dire, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Peut-être il s'est dit, ah, il faut que je sois sauvé, mais dis donc. Mais il fait venir Pierre pour comprendre, pour entendre les choses par lesquelles il pourrait être sauvé. Alors ça c'est fort, si Cornée avait besoin du salut, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, nous tous? Son histoire, en fait, montre que la sincérité ne suffit pas. Je pense qu'on est conscient dans un certain domaine. On peut sincèrement et sérieusement étudier pour un examen et le rater, si c'est bien au-delà de nos compétences. On peut sincèrement et assidûment prendre un doliprane tous les matins, mais ça ne guérit pas le cancer. Et c'est un peu ça, avec c'est la même chose. On peut sincèrement et assidûment pratiquer ces choses. C'est pas la solution en soi, c'est pas le salut en soi. Évidemment, la sincérité dans ses démarches auprès de Dieu, c'est toujours mieux que l'hypocrisie, comme on voit beaucoup. Pratiquer la justice, c'est toujours mieux que pratiquer l'injustice. Mais les plus pieux ont autant besoin du salut que les plus endurcis, c'est ce qu'on voit. Le chapitre avant, c'était acte 9, la conversion de Paul, lui, respirant du meurtre et des menaces. Donc lui, un homme violent, blasphémateur, tout ça, il a besoin de rencontrer, de découvrir le salut. Cet homme Cornée, qui prie, qui est gentil, qui fait beaucoup de monde, lui aussi, il a besoin. Et c'est là, on voit que la conversion n'est pas plus de religion, c'en est moins. La solution pour Cornée, ce n'était pas une augmentation d'activités et d'œuvres religieuses, mais c'était une découverte de ce que Jésus avait fait à sa place. Et c'est ça le message que Pierre va lui apporter, ces choses par lesquelles il va être sauvé, c'est apprendre la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ et découvrir que finalement, c'est Jésus seul qui a eu le 20 sur 20 sur l'examen de sainteté. Et même si nous, on est assidus et on est sincères à bien faire, nos notes sont loin d'être acceptables. Mais Jésus a eu 20 sur 20, il est prêt à nous le donner, à nous l'accorder. C'est lui qui a pris le cancer du péché. Donc la vraie conversion, comme on voit ici, ce n'est pas aller vers une religion, c'est en sortir, je dirais, ou en tout cas en sortir d'une conception de toutes sortes d'actions, d'œuvres, de rites qui peut nous approcher de Dieu. Et c'est ce que Cornée, il va se convertir, pas vers une religion, mais s'en éloigner et vers Jésus-Christ. C'est ça la conversion dans la Bible. Et puis on découvre une autre chose concernant la conversion, je trouve intéressante. On pourrait dire que la conversion, ce n'est pas compliqué et longue, c'est simple et instantané. On trouve ces versets 43. Pierre est en train de prêcher. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient les paroles. Voilà, c'est entre les versets 43 et 44, la chose se fait, on dirait. pas de lumière qui tombe du ciel, comme pour l'apôtre Paul, pas de voix, pas de main levée, rien de tout ça. Et c'est, il y a un côté simple, instantané. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descend et ils reçoivent le don, ils goûtent le salut. Plus tard, dans Actes chapitre 15, quand Pierre va rappeler un peu ces événements, il dit bien que ces païens-là, ils ont été purifiés par la foi, pareil que nous. Donc, effectivement, on sait que, voilà, il a dû, le verset 43, tout ce qui croit en lui, ils l'ont fait, ils l'ont cru. Ils ont été purifiés par la foi. Mais voilà, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de démarche compliquée. Pour devenir chrétien, ça se fait là, dans le secret du cœur, ça se fait parfois de manière invisible, mais c'est là. Il faut dire que dans d'autres cas, c'est difficile. Pour devenir romain, si on n'est pas romain, c'est compliqué. Pour devenir juif, quand on n'est pas juif, c'est compliqué. Hein, et la circoncision, c'est une grande barrière. Pour devenir français, si on n'est pas français, même ça, c'est, on va dire, un peu compliqué. Pour devenir chrétien, voilà. Il y a un côté simple et instantané quand on entend le message et on peut y placer sa confiance. Je vais essayer d'expliquer comme ça. Il vous arrive de goûter, de voir quelque chose au repas fraternel. Vous goûtez quelque chose au repas fraternel et vous trouvez que c'est très bon. Alors vous dites, il faut absolument que je demande la recette à la personne. Alors vous allez voir la personne qui a fait la chose et toujours c'est comme ça. Ah ben c'est très simple. Il suffit de prendre des œufs, de la farine, du sucre, vous les mélangez et c'est bon. Et moi je sais que je fais ça, le résultat n'est pas pareil. Et ce que je vous dis ce matin, c'est un peu ça. La Bible dit, il y a trois ingrédients, et ici qu'on trouve pour le salut, pour la conversion. Il y a le message de Christ, annoncé, prêché, ils écoutaient la parole du Pierre. Donc il y a le message de l'Évangile, il y a la foi, et puis il y a l'action du Saint-Esprit qui fait le travail. Donc, vous mélangez ces trois choses ensemble, le Saint-Esprit, la foi et, on va dire, la prédication, la parole, la chose se fait. D'un point de vue, c'est très simple. Il y a la parole, tout le monde peut l'avoir, il y a le Saint-Esprit disponible, donné à répondre à tous, et puis, il y a notre cœur, la foi, qui répond. Très simple. D'un point de vue, très simple. D'un autre point de vue, il faut être Dieu pour le faire. Hein? Il faut être Dieu pour le faire et c'est ce que nous apprenons aussi maintenant. On a vu qu'il y a un côté très simple et instantané comme Corneille. Mais maintenant, la conversion, on découvre que ce n'est pas nous, c'est Dieu. La conversion, ce n'est pas aller vers une religion, c'est s'en éloigner vers Christ. La conversion, ce n'est pas longue et compliquée, c'est simple et instantané. Mais enfin, on découvre ici que la conversion, ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est simple, mais cela nous est impossible sans l'œuvre de Dieu, sans la préparation de Dieu, sans l'intervention de Dieu. Il me semble que c'est ce qui ressort clairement dans cette histoire entre Corneille et Pierre. Tout chrétien, tôt ou tard, arrive à dire « Moi, j'avais l'impression de chercher Dieu, de démarcher Dieu, mais finalement, j'ai découvert par la suite que c'est Dieu qui me cherchait, c'est Dieu qui, tout au long du chemin, préparait ma route, conduisait ma route pour m'amener à lui. » C'est l'histoire de Corneille, non? C'est Dieu qui va diriger les circonstances pour que Corneille entende l'évangile. Corneille n'aurait pas su faire toutes ces démarches lui-même. Il va avoir une révélation divine pour aller chercher Pierre. Et Pierre va venir et Dieu va diriger tout ça pour que Pierre puisse venir. Et finalement, on voit la main de Dieu derrière tout ça, c'est évident. Et la conclusion de tout le monde, chapitre 11, verset 18. Ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens ». Ils ont compris que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a accordé cette repentance. Cette repentance, cette fois, était un don de Dieu. Et plus tard, encore en Actes chapitre 15, ils vont répéter la chose, ils vont comprendre. Ah oui, en fait, Dieu, ils disent « Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations » pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porte son nom. Donc Dieu, il vient, il choisit cet homme Corneille pour le sauver et pour mettre tout en place, tout en route, pour qu'il découvre le salut. Donc la conversion, c'est simple et instantané. La conversion, c'est pas nous finalement, c'est Dieu. Mais quand il fait sa recette entre son Saint-Esprit, notre foi et le message de l'Évangile, là, il y a le salut, il y a une belle œuvre qui se fait dans la conversion de Corneille. Donc, c'était bien de revoir la conversion de Corneille. Je suis reconnaissant ces jours-ci qu'on entend plusieurs témoignages, hein, quasiment tous les dimanches. On a eu des témoignages, on a vécu ça aussi au cours découverte. Le groupe de jeunes, chaque vendredi soir, il y a quelqu'un qui donne son témoignage. C'est fascinant de voir tous ces témoignages, toutes ces manières que Dieu fait grâce dans les vies, toutes ces manières que Dieu attire les personnes vers lui, toujours très différents. Et le livre des Actes, c'est aussi un recueil de témoignages. En lisant ces choses, nous-mêmes découvrons comment Dieu aussi a fait son travail en eux, comment nous pouvons donner notre témoignage, comment sa grâce attire toutes sortes de personnes, des gens comme Corneille, des gens comme Saul, des gens comme l'eunuque éthiopien, très différents, mais toujours le même salut. C'est beau de voir. Maintenant, j'aimerais voir une autre conversion dans ce chapitre. C'est la conversion de Pierre. Et là, cette fois-ci, je dis oui, conversion entre guillemets, parce que quand on parle de la conversion à Christ, on est bien d'accord, c'est une fois pour toutes, le salut, découvrir le salut, recevoir le pardon des péchés, c'est pas quelque chose qui se répète, c'est... On l'a, on devient enfant de Dieu pour toujours. Mais si je peux me permettre d'utiliser ce mot dans un autre sens, et on trouve ça dans la Bible, parce que le mot veut dire simplement se retourner, tourner, changer, radicalement changer, là on découvre que l'Évangile n'arrête pas de nous convertir et de nous tourner dans de nouvelles directions, de nouvelles obéissances au Seigneur. Et c'est ce que Pierre va devoir vivre, lui, ici, ainsi que toute la communauté juive chrétienne, ils vont avoir besoin d'une conversion. Et là, on dit, c'est ça qui est intéressant, à comparer Pierre et Corneille. Corneille, il est le rêve de tous les prédicateurs, bien disposé, il dit, moi, je suis prêt à écouter tout ce que tu me dis, et puis il croit sur place. Il est bien disposé. Mais pour Pierre, il a fallu vraiment insister pour qu'il change d'idée, pour concevoir que quelqu'un comme Corneille puisse être son frère, son copain, son invité. Parce que, vous savez, vous comprenez un peu, il y avait cette barrière ethnique, barrière sociale, infranchissable entre juifs et non-juifs. Et cette barrière, on va dire, était surtout maintenue par ces lois alimentaires. D'aller chez un autre, à l'époque, l'hospitalité était importante, donc ce n'était pas juste faire la porte à porte, aller entrer chez quelqu'un, c'était être reçu, certainement à table, un repas. Et donc, les lois alimentaires dans la loi de Moïse faisaient qu'il y avait cette barrière infranchissable entre juifs et non-juifs. Effectivement, dans la loi de Moïse, Dieu avait déclaré certains aliments purs, d'autres impurs. Pourquoi il a fait ça? C'était pour préserver son peuple Israël pendant le temps où ils habitaient entourés par ces nations païennes. Et c'était une manière très pratique, on va dire, de garder leur identité juive. Mais de là, les juifs sont allés plus loin avec ces lois, au-delà du but qu'avait donné Moïse. De là, les juifs sont allés plus loin. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, voilà, puisque je ne mange pas ça, je suis pur, et puisque eux, ils le mangent, ils sont impurs. Et quelque part on le fait, et cela nous arrange, parce que cela nous donne le sentiment d'être meilleurs, d'être plus aimés de Dieu que qu'eux. Et donc les non-juifs, parce qu'ils mangeaient telle nourriture, les non-juifs étaient d'office impurs, d'office souillés, d'office hors-jeu. Hors-jeu, hors plan de Dieu, hors salut. Et c'est ça ils vont devoir se convertir. Et enfin, il va apprendre le verset 28, on a lu, mais chapitre 10, verset 28, un verset clé, où Pierre arrive enfin à dire, vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Ce verset, c'est pas un commentaire sur l'état du cœur humain, parce que voilà, le cœur, tout cœur humain est taché, est souillé. Mais personne, aucun être humain est d'office impur à cause de son ethnie, à cause d'une apparence physique, à cause d'une présentation, à cause de la génération, de l'époque dans laquelle il vit. Et c'était Pierre a compris que quand Dieu lui disait, avec dans cette nappe des animaux purs et impurs, tue et mange, il comprit que, voilà, au-delà de la nourriture impure, ce que eux, les Juifs, avaient, c'était dit que tout le monde était impur, on ne pas touché, tout le monde est hors, les autres sont hors l'amour de Dieu, c'est ça qu'il fallait qu'ils changent. Et enfin, il arrive. Mais pensez à tout ce qu'il fallait pour que Pierre arrive à ce moment. On pourrait dire que c'est une évidence. Aller chez quelqu'un d'autre, lui apporter l'évangile, quel est le problème? Attention, même, pensez à nous. Pensez à nous. Dans l'église, parfois, combien c'est difficile rien que de saluer un étranger qu'on ne connaît pas. Sans parler de l'inviter chez soi ou d'aller chez lui. Donc, c'est pas forcément si évident que ça. Et à l'époque, les barrières étaient beaucoup plus importantes. Pensez à tout ce que Pierre aurait dû savoir, mais parfois on est lent à comprendre. Déjà, il avait suivi le ministère de Jésus. Jésus qui déjà commençait à montrer qu'il avait un cœur pour tous. Une des premières personnes pour laquelle Jésus a fait un miracle et dont il a célébré la foi, c'était un centenier. Pierre a vu ça. En Marc chapitre 7, avec ce débat avec les pharisiens sur justement des choses qui nous rendent impurs, hein, Jésus a dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche, c'est ce qui sort du cœur qui nous rend impurs. Et donc, le commentaire de Marc, peut-être venant de Pierre lui-même, le commentaire de Marc en chapitre 7, c'est Jésus, en disant ceci, Jésus avait déclaré tous les aliments purs. Donc ça, il avait reçu l'enseignement de Jésus. Puis à la fin des évangiles, on connaît cet ordre adressé à tous les disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est venant de la bouche de Jésus même. Ça va être difficile de faire toutes les nations des disciples sans jamais entrer chez eux. Mais dans leur tête, peut-être ça allait se faire quand même. Jésus avait dit à Pierre un jour, « Pierre, je te donnerai les clés du royaume. » Et ce chapitre qui explique un peu le sens de ces paroles, c'est Pierre maintenant qui va ouvrir l'accès du royaume de Dieu aux nations. Ces clés de Pierre n'ont rien à voir avec l'institution papale, comme on peut le voir, ouais, mais ça a tout le sens. C'est ici, en chapitre 10, où Pierre, par son ministère, par sa prédication, il ouvre effectivement les portes grandes ouvertes pour les nations. Donc Pierre avait reçu ça de Christ. Après, Pierre a vécu la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à Pentecôte? Eh bien, justement, les gens se sont mis à en parler dans toutes ces autres langues pour montrer, c'était ça le sens du parler en langue, pour montrer que maintenant Dieu acceptait la louange et l'adoration dans toutes sortes de langues, venant de toutes sortes d'ethnies. Dans la culture, dans la langue respective, sans devoir changer de langue, sans devoir changer de culture, Dieu agréait cette louange venant de tout le monde, de toutes les ethnies. Donc voilà ce qu'ils avaient déjà vécu. Et pourtant, malgré tout ça, dans leur pensée, il est encore hors question d'entrer chez un étranger. Ça va être difficile de partager l'amour de Dieu, de faire l'évangélisation, si on ne peut jamais entrer chez un autre. Mais, voilà, ça, on ne peut pas faire, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que Pierre va avoir besoin ici pour enfin changer? Il va avoir besoin de trois visions répétées. Cette nappe, tue et mange, non, jamais, de la vie. Ça repart, ça revient, ça repart, ça revient. Ensuite, il va avoir besoin d'un ordre direct de la part du Saint-Esprit, de Dieu. Va, sans hésiter, avec ses hommes. D'accord. Ensuite, quand ils prêchent, ils sont avec des autres, ils vont avoir besoin d'un signe ostensible que c'est pour de vrai, Le signe ostensible, c'est le Saint-Esprit descend, il se met à glorifier, à parler en langue, encore comme au début, pour montrer que effectivement, c'est Dieu accepte la louange de d'autres nations. Et puis, heureusement, il est allé avec 6 autres hommes, parce qu'ils vont revenir à Jérusalem, et les fidèles circoncis, les juifs chrétiens, vont dire, vont lui faire des reproches. Mais tu es allé manger chez un païen, c'est pas bien ça. Pas biblique, c'est pas chrétien. Et heureusement, ils sont 7 pour dire, en fait, on a vu, on peut témoigner que c'était vraiment Dieu, que c'était vraiment ça, c'était vraiment, on a vu le Saint-Esprit agir. Normalement, chez les Juifs, il fallait 2 ou 3 témoins. Là, ils ont 7. Difficile à constater, mais il fallait tout ça pour enfin, ils se calment. J'aime bien, ils se calmèrent. Verset 18, et glorifier Dieu en disant, ah oui, on comprend, les païens ont droit aussi au salut en Jésus-Christ. Ça, c'est une grande conversion pour eux, mais c'est définitif, c'est ça qui change toute la nature de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous, on est bénéficiaires. À partir de Actes chapitre 10, regardez bien, la foi chrétienne est la seule croyance au monde qui n'est pas liée à telle ou telle culture, telle ou telle ethnie, telle ou telle région du monde. Aucune culture, désormais, peut prétendre à avoir une majorité, peut prétendre à avoir une dominance sur la foi chrétienne, un monopole sur la foi chrétienne. Non, ça n'appartient pas aux juifs, ça n'appartient pas aux occidentaux, ça n'appartient pas aux... Voilà, la foi chrétienne, c'est l'affaire de tous, parce que Dieu a voulu accorder voilà, son salut aux nations. C'est ça qui est magnifique. Et ça, je trouve beau dans ce chapitre. Il y a Corneille qui va se convertir grâce à Pierre. Il y a Pierre qui va se convertir grâce à Corneille. N'est-ce pas merveilleux de faire partie d'une église, d'une foi, où le plus jeune dans sa foi est au bénéfice du plus mûr? Et le plus mûr dans sa foi est au bénéfice du plus jeune. Tout chrétien, quelle que soit sa maturité ou son expérience, je crois que c'est une leçon ici, tout chrétien a encore des choses à découvrir dans la parole de Dieu, encore des choses étonnantes à vivre avec le Seigneur, encore des choses à découvrir concernant la grandeur de la grâce de Dieu et comment il intervient dans des vies. Avouons-le, de par notre culture, de par notre époque, de par nos habitudes, nous sommes parfois aveuglés, nous sommes limités dans notre compréhension des choses, et Dieu doit nous changer, nous convertir. Il a converti Corneille avec l'évangile, et il a converti Pierre avec le même évangile, c'est-à-dire ce salut en Jésus-Christ, Christ qui meurt à la croix et qui ressuscite, c'est pas juste pour nous. C'est ça qui purifie les cœurs, ce n'est pas les aliments. Et à la fin du chapitre 10, verset 48, j'aime bien la dernière remarque, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Ils vont rester quelques jours là. Et ça, c'est un peu comme enfoncer le clou, parce que ce n'est pas juste manger une fois, toucher à peine les aliments. Et là, ils vont passer plusieurs jours, ils vont être ensemble. Ils vont commencer à vivre une véritable communion fraternelle. Ils vont devoir manger chez eux plusieurs fois. Mais maintenant on peut. Maintenant c'est bon. Maintenant on est unis en Jésus-Christ. Et c'est merveilleux. Donc la conversion de Corneille, la conversion de Pierre. Et j'aimerais terminer un peu en regardant le rôle ou la place des baptêmes ici. On a parlé des conversions. On a parlé de plusieurs baptêmes qu'on trouve ici. Parce que ça aussi, ça va nous aider à comprendre cette nouvelle unité que nous avons tous en Jésus-Christ. Parce que là, à la fin du chapitre 10, le Saint-Esprit descend et Pierre dit, verset 47, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Et puis, quand il doit s'expliquer devant les reproches des autres, un peu plus tard, il dit, pour expliquer tout ça, verset 16, il dit, « Et je me souviens, quand j'ai vu tout ça, je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur avait accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur, Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Donc ça, c'est pareil qu'à la fin du chapitre 10, il voit le Saint-Esprit descendre et dit on ne peut pas s'opposer au baptême d'eau parce qu'on les voit baptisés de Dieu, du Saint-Esprit. Pourquoi on parlait de, pourquoi le baptême prend une importance ici ou dans le Nouveau Testament ? C'est un peu dommage que le mot baptême pour nous a pris un sens très religieux, très rituel. Rappelons-nous que baptiser, pour eux, ça voulait dire simplement immerger, plonger. Et donc Pierre, il est là, il a prêché l'évangile et il voit clairement, il comprend clairement que eux aussi, en recevant le salut, ils sont immergés, ils sont plongés dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il a. Il dit, moi je me souviens, il a dit qu'on serait baptisé du Saint-Esprit, on serait plongé, immergé, inclus dans la présence de Dieu, dans le Saint-Esprit. Et donc c'est pour ça qu'on parle baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas une étape bizarre de la vie chrétienne, ce n'est pas une expérience autre, c'est juste une manière que le Nouveau Testament aime pour décrire le salut, recevoir le salut en Jésus-Christ. Nous, parfois, on dit j'étais lavé par le sang de l'agneau. Ou bien on dit Jésus est entré dans mon cœur. C'est une manière d'exprimer un peu des choses qui se passent lors du salut. Et eux, ils pouvaient aussi bien dire baptisés du Saint-Esprit, ils ont été immergés, plongés en Dieu. Il est venu vers nous. Il nous inclut tous dans sa famille, dans son corps. Donc c'est comme être plongé, immergé en lui. Et ce que dit Paul plus tard, il explique un peu ces choses, 1 Corinthiens 12, 13, il dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. » C'est-à-dire, pour eux, c'était ça, cette idée. Si toi, tu crois en Jésus et que moi, je crois en Jésus, eh bien, on se trouve dans le même sac, on se trouve immergé, on se trouve plongé dans la même affaire, dans le même salut, dans le même cadre, donc on est ensemble. De là, on procède au baptême d'eau, qui symbolise cette inclusion dans l'Église de Dieu. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible qu'on puisse tous être inclus dans la famille de Dieu, qu'on puisse être immergé, plongé dans sa personne si sainte, si parfaite ? Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est Pierre qui raconte ce qu'a fait Jésus, sa vie, son ministère. Et c'est intéressant parce qu'un jour, Jésus décrivait son œuvre, sa mission, et il a dit, en Luc 12, il a dit, « Je suis venu pour accomplir un baptême. Il me tarde d'être baptisé avec le baptême dont je dois être baptisé. Combien il me tarde qu'il se soit accompli. Je vais vers un baptême, disait Jésus. » Et lui, son baptême à lui, il parlait de la croix. Vous voyez, Jésus a été baptisé, on va dire, dans l'absence de Dieu, pour que nous soyons baptisés, immergés dans sa présence. Jésus a été baptisé dans la colère de Dieu pour que nous soyons immergés dans l'amour de Dieu. Et c'est ce que le baptême d'eau illustre, immergé dans le jugement pour être sorti vivant. Et ce que Christ a fait pour nous, et quand on a compris ça, c'est ça qui nous unit en Jésus-Christ, c'est ça qui nous plonge ensemble dans l'Église. C'est pour ça que les lois alimentaires, les lois cérémonielles, les lois sur la circoncision, tout ça, ils étaient utiles dans leur temps pour un usage particulier. Mais ici, clairement, Dieu fait comprendre qu'ils n'ont plus lieu d'être, surtout pour nous donner accès à Jésus-Christ. Non, c'est ce que Jésus a fait, c'est son baptême sur la croix, son baptême dans le feu de la colère de Dieu, qui nous donne, nous, un baptême dans la présence de Dieu, ce baptême de l'Esprit. Et maintenant, Corneille et Pierre peuvent être assis à table, manger ensemble, participer joyeusement au repas fraternel, chose inouïe à l'époque. Combien plus nous aussi, ensemble dans l'Église, on peut vivre un sincère amour fraternel ensemble, parce que ce qui nous unit, ce qui nous plonge ensemble, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Vous savez, parfois on trouve la loi alimentaire un peu bizarre. Déjà pourquoi Dieu a demandé toutes ces choses, et pur et impur, on trouve ce cadre un peu bizarre pour nous. Nous, les Français, qui aimons bien manger un peu de tout, même des choses bizarres. Mais est-ce que notre société est si différente par rapport aux lois, aux principes alimentaires? Regardez à quel point, de nos jours, la nourriture bio devient importante. On est presque au point de parler de la nourriture pure et impure. Pourquoi une telle fascination? C'est peut-être une bonne idée, mais il y a une fascination, il me semble que encore aujourd'hui, on cherche à se donner bonne conscience. On cherche à se donner bonne conscience et, faute de mieux, on se dit, si je mange bien, je serai bien. Si je mange bien, je suis quelqu'un de bien. Mais vous avez beau baptiser le ventre et le corps dans des choses bio et naturelles, cela ne lave pas le cœur. C'est ça la chose depuis toujours. Et nous, encore aujourd'hui, nous, on est prêts à chercher cette pureté, cette nouvelle vie, même dans l'alimentation, comme faisaient les Juifs à l'époque, à leur manière. Mais l'Évangile, c'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus qui offre le pardon des péchés. Il a pris toutes ces, nos souillures, nos impuretés, il les a pris sur lui à la croix pour nous offrir une pureté. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui peut encore toucher chaque culture, chaque ethnie et les transformer pour vivre à la gloire de Dieu. Prions ensemble.